Bonsoir. Eh bien, je vais commencer par quelques repères qui vous sont peut-être familiers sur John Cage, mais je les rappelle quand même. Donc, John Cage est né à Los Angeles en 1912 et il est décédé à New York en 1992. Et on le considère généralement comme un des compositeurs les plus inventifs du XXe siècle. Aussi, un des personnages peut-être les plus sulfureux apparemment, puisque c'est quelqu'un qui a suscité de nombreux scandales, bien qu'il n'ait jamais cherché à les provoquer lui-même. Mais c'est ses prises de position, peut-être par rapport à la notion d'œuvre musicale, par rapport au statut accordé jusque-là aux compositeurs, qui ont suscité beaucoup de remous dans le petit monde de la musique contemporaine. Alors, quelques traces, si vous voulez, de son parcours, notamment de son éducation. Alors, Cage a longtemps hésité entre la peinture, l'architecture et la musique, mais même aussi la prêtrise, puisqu'il était question, à un moment donné, quand il était jeune, il avait pensé être pasteur. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Bon, et donc, il a étudié la musique, et un de ses maîtres a été Schoenberg. Et je vais vous relater quelques petites anecdotes autour de Cage et Schoenberg, parce qu'elles sont à la fois révélatrices de la personnalité de Cage et de son parcours futur. Alors, un jour, donc, d'abord, il voulait prendre des cours avec Schoenberg, et évidemment, il n'avait pas d'argent, donc ce n'était pas forcément facile. Et Schoenberg lui dit, je suis d'accord pour vous enseigner, mais il y a une condition, c'est que vous preniez une décision, c'est-à-dire que vous consacriez votre vie à la musique et que vous laissiez de côté vos autres goûts, c'est-à-dire la peinture et l'architecture. Et donc, Cage a accepté et il a respecté sa promesse jusqu'en 1969, au moment de la mort de Marcel Duchamp, où là, il s'est lancé dans une aventure par rapport aux arts plastiques qui est absolument passionnante et dont vous verrez tout à l'heure des extraits dans le film qui vous sera présenté. Donc ça, c'est un des éléments. Donc, se consacrer à la musique, donc ça, il l'avait promis à Schoenberg. Par ailleurs, Schoenberg, qui, comme vous le savez certainement, donc, est à l'origine du dodécaphonisme, c'est-à-dire de la technique aux 12 sons, qui était le maître de Alban Berg, d'Anton Webern, et qui, donc, le dodécaphonisme qui ensuite donnera lieu au sérialisme. Donc Schoenberg dit un jour à Cage, Monsieur Cage, vous n'avez pas le sens de l'harmonie. Or, un compositeur qui n'a pas le sens de l'harmonie, ça équivaut pour lui à se frapper la tête contre les murs. Et Cage lui a répondu, eh bien, dans ce cas, maître, je passerai le restant de ma vie à me frapper la tête contre les murs. Donc vous voyez un peu les retournements de situation dont est capable John Cage. Et il y a comme ça plusieurs autres anecdotes qui montrent à la fois l'admiration que Cage avait pour Schoenberg, mais aussi les réticences qu'il éprouvait par rapport à un enseignement qui était somme toute assez académique. Alors un des apports de Cage assez rapidement, c'est-à-dire après ses premières études avec Schoenberg, ça va être le travail sur le timbre et le travail sur la durée. En effet, jusque-là, la hauteur du son était vraiment la propriété prépondérante qui était travaillée par les compositeurs, d'où la remarque de Schoenberg. Or, pour Cage, il y avait une dimension qui lui était beaucoup plus, qu'il pensait beaucoup plus fondamentale que les questions d'harmonie et de hauteur, c'est la question du temps, c'est-à-dire le travail sur le rythme. Et c'est ce qui va d'ailleurs faire que très vite, Cage va être amené à travailler avec des chorégraphes. Parce que ce qu'il y avait de commun, bien sûr, entre ces deux arts, c'est précisément la question du temps. Un autre facteur très important, très vite chez Cage, c'est le timbre. C'est-à-dire, donc, ne pas considérer que le timbre est une sorte de coloration de la hauteur du son, mais est une propriété à part entière. Et bien sûr, le début du XXe siècle voit l'émergence de beaucoup d'inventions de nouveaux instruments, et puis par exemple l'avènement de la percussion. Dans la fin des années 20, Edgar Varèse compose notamment Ionisation, qui est la première pièce pour un ensemble de percussions. Et ça va frapper très fort John Cage, qui va lui aussi se lancer dans l'écriture de pièces pour des instruments dont la hauteur n'est pas déterminée. Parce que, si vous voulez, il voulait, à ce moment-là, il était conscient de la discrimination qui existait entre les sons dits musicaux, c'est-à-dire les sons qui ont des fréquences, des hauteurs parfaitement identifiables, et les sons complexes. Alors, bien sûr, Cage n'est pas le seul responsable de ce constat. Déjà, par exemple, les futuristes, dans les années 10, avaient dénoncé cette discrimination arbitraire entre les sons et les bruits. Mais Cage va amplifier cet aspect-là en composant donc un certain nombre de pièces pour un ensemble de percussions qu'il avait créé et qui lui permettait de faire aussi de faire entendre. Enfin, il y avait plusieurs raisons à ce choix des percussions. C'est encore une fois travailler sur le timbre. Par exemple, il est à l'origine de certains types d'instruments comme le gong à eau, qui consiste à tremper, enfin, ou à plonger un gong dans une bassine d'eau, ce qui change les hauteurs, la hauteur du son, qui fait une espèce de glissando. Ça, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Cage va explorer toutes les ressources sonores des matériaux qu'il avait à sa disposition, éventuellement même les sons les plus quotidiens. Parce que, par exemple, vous avez une pièce qui s'appelle « Living Room Music », et dans lesquels il y a les sons des portes, des fenêtres, des tables, etc. Donc Cage explore tous les sons, y compris les sons du quotidien, qui jusque-là n'avaient pas la possibilité d'être entendus à part entière dans une œuvre musicale. Alors, donc, encore une fois, je vous dis, il y a plusieurs raisons. Première raison, donc, c'est qu'à l'époque, il était extrêmement difficile, dans le milieu très conservateur, malgré tout, des États-Unis, de faire entendre sa musique. Donc, il constitue ce groupe de percussions. Et ce groupe de percussions joue notamment par rapport à la danse. Et donc, par exemple, dans les cours des années 30, vous avez de nombreuses pièces. Vous en entendrez une un peu plus tardive tout à l'heure, qui est Amores de 42. Mais il y a d'autres pièces, comme les Constructions in Metal, etc., où il fait appel à toutes sortes d'éléments sonores, donc qui échappent à l'instrumentarium traditionnel, l'instrumentarium conventionnel. Alors, parmi les principes de composition aussi qu'il utilise à l'époque, et qui concerne cette fois plutôt les questions de rythme, il utilise une méthode qui s'appelle micro-macroscopique, ou encore méthode de la racine carrée, et qui consistait à partir de proportions que l'on trouvait dans une œuvre, aussi bien au niveau, par exemple, de chaque mesure d'une œuvre, qu'au niveau de la structure entière d'un morceau. Donc ça, c'était une volonté de travailler d'une manière très rationnelle, en fait, sur des questions de proportions rythmiques. Mais encore une fois, donc dans le sens d'une pensée à part entière du temps qui se détache de cette suprématie accordée à l'harmonie jusque-là. Alors, une autre invention qui va être encore plus... Enfin, là, c'est vraiment une invention de Cage qui va le mettre un peu en avant, c'est le piano préparé. Et là, ce sera le premier extrait de film que je vais vous diffuser, puisque là, on entend Cage parler de cette innovation du piano préparé. Alors, je ne sais plus s'il le dit dans le film, mais en fait, il n'avait pas assez de place pour un orchestre de percussion, son orchestre habituel, pour dialoguer avec la danse, donc pour introduire un ensemble en contrepoint de la danse. Et en plus, si vous voulez, il avait été question d'un piano, mais le piano se prêtait peu à la thématique de la chorégraphie, qui était une chorégraphie d'une chorégraphe noire américaine qui traitait d'un sujet en rapport avec l'Afrique. Et donc, il s'était dit que des sons traditionnels de piano étaient un peu malvenus dans ce contexte. Et c'est là donc il a inventé le piano préparé. Mais donc, je vous propose de visionner donc un premier extrait.
I first prepared the piano in Seattle. But this piece was written here in New York. I wrote it for a dance at Nurse Cunningham. And at the time, when I wrote for the piano, which I had to do in this case because the theater was small and had no wings for musical instruments. It simply had a piano in front of the stage. And it was kind of built into the seats of the audience. So that the only instrument that could be used conveniently was a piano. And I had the experience earlier of studying with Henry Cowell, so that I knew that he had obtained sounds on the strings of the piano by plucking them, or by muting them, or by stroking them, this kind of sound. And so I extended the idea to putting objects between the strings. The first object I put, not between the strings, but on the strings, was the pipe plate. And that jangled and moved about. So then I knew it had to be something that was fixed. And first I put a nail and it slipped. Finally I put a wood screw. And because of the grooves in the screw, it stayed sufficiently long in position to give a sound that could be repeated.
I love these. My jangle nuts.
Yeah, these both are very good because the grooves are very close together and there's very little possibility through the vibration of the strings of there being any movement.
Now one bar of preparation. There. That's it.
Good.
Film réalisé par Lina et consacré aux sonates et interludes de Cage, on voit le compositeur préparer le piano pour Gérard Frémy, à qui l'on doit parmi les plus remarquables interprétations des sonates.
J'aime toutes les musiques qui surpassent les limites de la musique. Je crois que quand je travaille seul, même maintenant, je travaille toujours avec soin. Mais quand je travaille avec les autres, je prends le soin de ne pas imposer mes idées sur eux. Et comme ça, je donne l'impression de ne pas prendre soin, mais moi-même, je les prends. Et j'ai confiance que les autres vont les prendre aussi.
Un tout petit rectificatif par rapport à ce que dit Cage, parce qu'en fait c'est pas Merce Cunningham. Pour Merce Cunningham, bon là il s'est trompé, je suis désolé pour lui, enfin j'espère qu'il ne m'entend pas trop, mais en fait c'est avec Civil Affort qu'il a réalisé donc la première musique pour piano préparé pour un ballet qui s'appelle Bacchanal. Donc voilà, c'est juste une petite rectification parce que Merce Cunningham est arrivé plus tard. Alors c'est un premier pas de la part de Cage vers une relativité du contrôle que le compositeur peut assurer par rapport à l'exécution d'une œuvre. Je m'explique. C'est-à-dire que le piano préparé, selon l'instrument dont on dispose, selon qu'il s'agit d'un piano à queue entière, demi-queue, selon que c'est un Bösendorfer, un Steinway, etc., eh bien, ça, il ne va pas sonner de la même manière. Et aussi selon la manière, parce que même si Cage est très précis dans certaines pièces, pas dans toutes, mais dans plusieurs pièces, il dit assez précisément quel type de vis ou quel type de papier on doit mettre entre les cordes. C'est assez précis, mais un piano est un instrument trop complexe pour qu'on soit absolument sûr que d'une interprétation à une autre, on aura exactement le même résultat. Même si, encore une fois, la partition est encore à cette époque-là traditionnellement notée par Cage. C'est-à-dire qu'on a une partition où on sait exactement sur quelles touches on doit jouer, bien qu'encore une fois, aux touches en question ne vont pas correspondre les sons d'un piano traditionnel, mais vont correspondre parfois des sons qui s'apparentent à ceux d'une sorte de gigantesque percussion ou de gamelan. Mais donc, on a vraiment une certaine imprévisibilité du résultat, et ça, cet aspect de l'imprévisibilité, c'est un aspect que Cage va développer très progressivement en accordant de plus en plus de place au rôle de l'interprète. Ce qui va d'ailleurs faire scandale parce qu'il règne encore l'idée selon laquelle, pour un compositeur, l'attitude est de fixer exactement ce qu'il veut et de le transmettre ainsi à l'interprète. Or, Cage, là vous l'avez entendu un peu en parler, évidemment, encore une fois, il faudrait beaucoup plus de temps pour développer tout cela, mais donc Cage dit... Il a confiance, il accorde une confiance à l'interprète et il ne cherche pas à s'imposer à lui comme celui qui dicte ses volontés. Donc ça, c'est un des aspects donc, qui va faire scandale chez Cage, bien qu'encore une fois, pourquoi pas ? C'est-à-dire qu'on peut se demander pourquoi ça a déclenché tant de réactions négatives. C'est que Cage ne cherche plus à imposer un message, une vérité à l'interprète. Alors, cette question de la non-intention, puisqu'il utilise ce terme de non-intention, lui est venue un jour où, pendant la guerre, il avait écrit plusieurs œuvres qui étaient très lourdes, enfin, qui étaient liées à des messages assez lourds. D'ailleurs, là, vous avez entendu un extrait de « In the Name of Holocaust ». Bon, je ne pense pas avoir besoin de vous traduire le titre. Il est très explicite, et il y en a d'autres comme ça de cette époque de Cage où il faisait passer, non peut-être pas des messages, mais en tout cas il y avait l'expression d'un certain nombre de sentiments, si vous voulez. Et Cage s'est aperçu que, en fait, lorsque les gens écoutaient ces pièces, surtout à l'époque, ça les amenait plutôt à rire. Alors il s'est dit, bon, là j'ai un problème. Puisque je n'attends pas, il n'y a pas du tout cet aspect dramatique que j'ai essayé d'inscrire dans cette pièce, par exemple « In the Name of Holocaust ». Donc j'ai deux solutions. Soit cesser de composer de la musique, ça aurait été quand même un peu dommage, et pour lui et pour nous, soit estimer que la musique n'est pas là pour exprimer des sentiments, pour faire passer un message. Si je dois faire passer un message, le mot, et encore peut-être pas, mais enfin, en tout cas, on peut imaginer que le mot est là pour ça. Mais la musique doit vous laisser libre de votre propre accès en tant qu'auditeur. Donc à partir de là, il a tenté, selon sa propre expression, de trouver des moyens pour laisser les sons être ce qu'ils sont. C'est-à-dire ne pas essayer de leur imposer des critères qui en feraient sa propriété, qui permettraient d'en faire sa propriété personnelle, mais plutôt de créer des processus destinés à créer du son. Donc c'est une attitude très différente du compositeur traditionnel, encore une fois, qui dicte ses volontés à l'interprète, qui lui-même essaye de faire passer ce qu'il joue à l'auditeur-spectateur. Dans le cas de Cage, chacun a sa propre, doit mener sa propre expérience. Ce qui est une idée d'ailleurs aussi très proche du bouddhisme et du bouddhisme zen, mais dont vous a parlé Nin, je crois, la semaine dernière. C'est-à-dire on doit imaginer que chaque son, chaque personne a sa propre identité et ne dépend pas nécessairement du contrôle de quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça c'est un aspect très important de l'évolution de Cage. Alors Cage va donc aller vers une imprévisibilité de plus en plus grande par rapport au résultat de ses œuvres. Là, ce que vous avez entendu, ce sont des pièces qui sont encore écrites traditionnellement, mais très vite, il va écrire des pièces qui laissent beaucoup d'initiatives à l'interprète. C'est une espèce de co-responsabilité, si vous voulez. Je vais vous décrire comme ça, très brièvement, une des pièces qui est comme une espèce de manifeste de ce qu'il a appelé l'indétermination, et donc qui a fait aussi beaucoup scandale, parce qu'on n'avait plus de possibilité d'identifier très clairement une œuvre. Peut-être qu'on reviendra sur ces points lors d'une discussion plus tard. Par exemple, son concert pour piano et orchestre, vous avez 13 parties instrumentales et un grand solo de piano. Et toutes ces parties sont indépendantes. C'est-à-dire que Cage dit dans une sorte d'introduction, qui est une sorte de mode d'emploi, si vous voulez, de la partition, qu'on peut prendre n'importe quel nombre de parties pour créer une version du concert. Y compris d'ailleurs aucune, ce qui nous ramène au silence, ce qui nous ramène à une pièce dont peut-être je vous dirai quelques mots plus tard, qui est une des pièces les plus connues de Cage, qui est 4 minutes 33, et qui consiste en uniquement un silence. Mais il n'a jamais fait ça pour créer du scandale, mais parce qu'il y avait le constat pour lui qu'il ne voulait pas que les sons soient sa propriété, mais puissent intervenir en deçà de ses critères de choix personnel, de ses émotions, de sa subjectivité. Alors, je reviens au concert pour piano. Donc, chaque musicien, par exemple, a... Donc, alors, il y a des parties pour violon, violoncelle, alto, flûte, trompette, etc. Chaque musicien a une partition avec un certain nombre de portées et il choisit, par exemple, chaque page, sauf la partie de piano qui est beaucoup plus fleurie, si on le dit beaucoup, qui fourmille de notations différentes, chaque page comporte 5 portées et un musicien prépare sa propre version, c'est-à-dire par exemple peut décider de faire la première portée, de ne pas jouer la seconde, la deuxième, de jouer la troisième, de ne pas jouer la quatrième et de jouer la cinquième. Et il se donne des durées à chacune de ces portées à l'intérieur d'une durée globale fixée auparavant, c'est-à-dire par exemple on se réunit avant et on décide de faire une version de 20 minutes du concert. Donc il va se préparer un matériau d'une vingtaine de minutes. Donc, en fait, bon, là, je n'ai pas avec moi de reproduction, mais vous pouvez assez facilement visualiser. Vous n'avez plus les valeurs comme les croches, les noires, les blanches, que Cage lui-même a utilisé auparavant. Vous avez des points de différentes grosseurs, petits, moyens ou gros, qui impliquent des sons de moyenne importance, de grande importance au niveau de la durée et ou de l'intensité. C'est-à-dire, par exemple, un point gros, ça pourrait être un son long mais doux, ou long et fort, ou bien bref et fort. Enfin, bref, il faut qu'il y ait quelque chose d'important, donc soit au niveau de l'intensité, soit au niveau de la durée. Et donc, idem pour les autres types de points que je vous ai signalés. Donc, vous n'avez plus l'astreinte d'une rythmique cadencée, si on peut dire, ou mesurée, mais vous devez vous choisir vos propres durées. Et tous les sons sont isolés. Et donc, chaque musicien travaille sa partie, et ensuite, eh bien, on superpose toutes les parties en fonction du nombre que l'on a choisi. Et Cage alors précise, par exemple, que dans le meilleur des cas, on devrait disperser les musiciens à l'intérieur de la salle où est jouée la pièce, de façon à ce qu'il n'y ait plus non plus, c'est pour ça que c'est une pièce manifeste, parce qu'il y a vraiment toutes les grandes idées de Cage, il n'y a plus de place privilégiée pour l'auditeur. C'est-à-dire, par exemple, vous allez peut-être vous retrouver à un mètre du violoniste, alors que vous serez à un mètre du trompettiste. Donc vous n'aurez pas du tout, vous n'avez plus du tout d'écoute idéale, comme dans un théâtre traditionnel, où on va vous dire, tiens, ben, si je me mets là au deuxième rang, au milieu, je vais avoir une audition idéale, où j'entendrai un équilibre parfait des différents instruments. Là, ce n'est plus le cas. Chaque auditeur a sa propre appréhension de la pièce. Et il va même jusqu'à dire qu'on peut imaginer que l'œuvre commence avant que les gens arrive dans la salle et se termine après. C'est-à-dire que, en fait, l'œuvre est en cours de réalisation, mais elle n'a pas, comme les œuvres traditionnelles, un début défini qui, ensuite, évolue progressivement vers une fin inéluctable. C'est donc toute une reconsidération des principes de l'œuvre que l'on est là pour consommer. Si vous voulez, on n'est plus du tout dans cette poétique-là. On est dans une... Cage demande à l'auditeur, d'une certaine manière, d'avoir une écoute, de pratiquer une écoute active, c'est-à-dire de se faire sa propre perception individuelle par rapport à ce qu'il lui est donné à entendre. Alors évidemment, ça suppose que les musiciens jouent le jeu aussi, c'est-à-dire qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Comme vous avez pu le constater par rapport à ce que Cage disait, il apporte le plus grand soin à chacune de ses décisions, et donc on l'a souvent traité de fumiste, et c'était tout le contraire, c'était un homme d'une très très grande rigueur. D'ailleurs, discipline figurait parmi les termes qu'il a développé ou qu'il a éclairé dans certains de ses écrits. Donc c'est tout à fait le contraire de la manière dont beaucoup de critiques on saisit son attitude. Mais évidemment, encore une fois, vous n'avez plus la recherche du chef-d'œuvre à tout prix. Vous avez une, par exemple, si on joue le concert une fois, ça pourra être la prochaine version pourra être totalement différente, pourra prendre tout autre selon le contexte, les instruments, etc. Alors il y a encore un dernier point, si vous voulez, puisque je suis sur ce concert. Alors donc il n'y a pas de chef d'orchestre, mais quelqu'un qui indique gestuellement le temps, c'est-à-dire qu'il a une partition temporelle qui lui indique des ralentissements et des accélérés par rapport à un mouvement circulaire de ses bras. C'est-à-dire, par exemple, imaginons, je suis violoniste, j'ai décidé de jouer la première séquence en 15 secondes. 15 secondes, ça va correspondre à un quart de cercle. Mais il se trouve que le, entre guillemets, chef d'orchestre, parce que chef d'orchestre ne contrôle pas, comme le chef d'orchestre traditionnel, ce que les musiciens font, il ne peut pas le faire, parce que de toute façon, chaque interprète prend ses propres décisions. Mais imaginons, par exemple, que le chef d'orchestre, dans sa partition, il lui soit indiqué de décrire ces 15 secondes en 10 secondes, eh bien, ça veut dire que je vais accélérer ma séquence prévue pour être de 15 secondes au départ, ou ralentir, ou même, à certains moments, il prévoit aussi qu'on suspende le temps. Donc, c'est une espèce de manière de relativiser encore le résultat. Et lors de la création du concert pour piano, c'est Merce Cunningham qui a diriger, si on peut dire, l'ensemble. Or, Merce Cunningham a beaucoup de qualités, mais en tant que chef d'orchestre, ce n'est pas vraiment forcément pour cela qu'il est le plus réputé. Donc, vous voyez, c'était aussi un geste de donner à Cunningham cette fonction-là, qui n'était pas du tout une fonction de contrôle des musiciens, mais qui était celui qui, encore une fois, suggérait le temps. Alors, voilà, par exemple, ce que représente l'indétermination. Et à mesure que les années vont s'écouler, Cage va donner de plus en plus de responsabilités aux interprètes en abandonnant, par exemple, certains principes de notation traditionnels. Par exemple, dans le concert pour piano, vous avez encore des portées, même si, encore une fois, il n'y a plus les valeurs de rythme traditionnelles, mais vous avez encore des hauteurs de son. Mais vous avez, dans le début des années 60, des pièces de Cage qui sont dans une notation strictement graphique. C'est-à-dire que là, il n'y a plus du tout de référence au solfège traditionnel, mais par exemple des transparents avec des courbes, des choses comme ça. Si bien que ce sera aussi ça qui va faire que finalement son activité va être assez proche du graphisme, d'une certaine manière. Alors là, le deuxième document que je voulais vous diffuser, on voit trois protagonistes importants, parce qu'encore une fois, Cage, c'est quelqu'un qui a énormément collaborer, ça c'est une publicité pour Philips. Hein, c'est... Cage, donc c'est quelqu'un qui est au croisement de plusieurs disciplines artistiques. Je vous l'ai dit, la danse a toujours beaucoup compté pour lui, et également les arts plastiques. Et là, vous allez voir un petit document où on retrouve trois personnages qui ont beaucoup travaillé ensemble. C'est Merce Cunningham, c'est Robert Rauschenberg, le plasticien, et John Cage. Puisqu'encore une fois, donc, Rauschenberg lui-même a collaboré de nombreuses années à la Merce Cunningham Dance Company en tant que responsable des décors, etc. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la relation Rauschenberg, Cage, notamment dans la mesure où l'un et l'autre se sont orientés vers le silence plastique pour Rauschenberg dans les Black Paintings et les White Paintings, et John Cage, un tout petit peu plus tard que Rauschenberg d'ailleurs, avec 4 minutes 33 en 52, donc il a aussi fait cette pièce de silence. Et puis ils sont, Rauschenberg et lui, à l'origine des premiers happenings, c'est également l'année 52. Mais là, je vous laisse écouter donc ces trois personnages.
Artistically, working with John and Merce actually gave me license to do anything.
La première œuvre qui réunit Cage, Rauschenberg et Cunningham fut le ballet Minutier en 1954. La chorégraphie était de Merce Cunningham, la musique de John Cage, les décors et les costumes de Robert Rauschenberg.
I even tried helium balloons because there was nothing to hang it from. He wanted to jump over it, pass through it, crawl under it, and it shouldn't weigh anything for traveling.
That's right. Very simple restrictions.
Just like in costume, he didn't want to know that he was wearing anything. But he had to be covered.
wasn't that
where John that I envied John, because he could throw any kind of sound on top of anything, you know, and everybody would either ignore it or admire it or hate it.
Voilà. Donc ça, c'est encore une fois donc un témoignage de cette complicité qui s'est instaurée à cette époque, notamment donc entre ces trois personnages. Donc un point important, et donc là maintenant je vais vous en avoir un témoignage, je crois, intéressant, c'est comment ces partitions graphiques peuvent être interprétées. Donc là vous allez voir, donc je vais vous faire entendre, mais pas tout de suite, donc si tu permets, voilà, on va interrompre ma chanteuse là. Donc un témoignage de la manière dont ça peut se produire, parce que là la partition apparaît à l'écran à plusieurs reprises. Donc comment une chanteuse, dans ce cas-là, c'est les songbooks, comment elle peut prendre en compte, prendre à sa charge les informations graphiques, notamment fournies par le compositeur. Donc la notation n'étant plus un ordre unilatéral qui est adressé à l'interprète et auquel vous devez obéir à la lettre, mais qui est une suggestion, qui est une sorte de stimulation qui vous permet de faire intervenir votre propre personnalité. Alors là, par exemple, dans ces songbooks, le premier de ces songs, c'est en fait un travail sur les lettres. Ça, c'est très important, si vous voulez, cet aspect, par exemple, la lettre, c'est ce qui permet à Cage soit d'incliner vers la musique vocale, si vous voulez, à travers, donc, par exemple, le son des phonèmes liés aux lettres, mais ça peut être aussi un travail de poésie visuelle ou un travail plastique. Donc c'est pour ça qu'il s'est retrouvé très vite entre plusieurs champs artistiques, parce qu'encore une fois, certains phénomènes appelaient ces entrecroisements, ces chemins de traverse entre plusieurs moyens d'expression. Donc là, vous allez découvrir cela à travers un des sons de ces songbooks, et puis ensuite vous verrez aussi une partition qui a toutes sortes de graphismes qui peuvent même s'apparenter d'ailleurs à ce qu'on appelle les neumes dans le chant grégorien, hein, qui sont des graphismes qui suggèrent la pente de la voix, par exemple un glissando ou quelque chose comme ça. Donc vous allez voir des partitions qui ne sont, encore une fois, qui ne sont plus conçues comme quelque chose qui fixe un résultat, mais qui plutôt déclenche des réactions de la part de l'interprète. Et les songbooks, un peu comme le concert pour piano, eh bien vous pouvez les superposer, vous pouvez même superposer à d'autres œuvres. Moi, j'ai un souvenir ému. La première exécution des songbooks, c'était en 71 ou quelque chose comme ça, donc c'est une pièce qui date de ces années-là, 70 ou 71, ou alors peut-être 72. Et donc, moi, je jouais une des parties du concert pour piano. Cage faisait ces espèces de pseudo-conférences dont vous aurez un aspect tout à l'heure dans un autre extrait de film. Et puis, il y avait Cathy Berberian et Simone Rist qui chantaient des songbooks, mais encore une fois, elles avaient fait leur propre parcours à travers les volumes. Je crois qu'il y a plus de 95 songs, et donc les interprètes doivent choisir ceux qu'ils veulent interpréter. Ben, je vous fais écouter un extrait donc, de ces songbooks.
Cela,
fameux nœud en question dont je vous parlais pour la donner. Alors là, vous savez, dans cette partition, vous avez vu, c'est des faits de courbes, de glissements, etc. Et il y a des chiffres qui se posent de la part de la chanteuse de les associer à des styles de chant. Alors elle peut par exemple colorier la partition et décider que tel chiffre va correspondre à un style jazz ou un style ou un timbre nasal ou bien. Donc elle doit s'inventer une sorte de palette de couleurs de voix différentes. Et il y a aussi vous avez pu entendre à un moment donné, elle frappe du pied sur le sol. Ça, c'est des petits carrés qui sont indiqués également dans la partition et qui correspondaient à des accidents du papier sur lequel Cage a écrit la partition. Donc, c'est des actions extérieures à la production des sons vocaux proprement dit. Donc, ça peut être des claquements de doigts, ça peut être un objet sonore annexe, etc. Alors, là maintenant, donc, on va, puisque comme malheureusement le temps passe très vite, je vais évoquer donc un autre aspect de l'activité de Cage, c'est l'aspect plastique. Puis après, vous aurez l'aspect poétique dans un autre passage d'un film qui est consacré à cet aspect de l'œuvre de Cage. Alors, ce qui rattache toutes ces activités, le point commun, c'est le recours à la méthode I Ching, c'est-à-dire cette méthode de divination. Donc, c'est un des premiers livres qui ait jamais existé, donc un livre qui vient de Chine, et qui vous permet de tirer au sort, à partir de certaines questions que vous posez, des phénomènes que vous choisissez. Donc là, par exemple, il va vous décrire, donc il s'en est beaucoup servi de cette méthode I Ching pour les compositions musicales proprement dites, c'est ce qui lui permettait de transgresser ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire la domination de la subjectivité, ses sentiments, ses goûts, pour arriver à quelque chose où c'est le matériau qui, d'une certaine manière, s'émancipe. Et c'est ce que vous allez voir dans son œuvre graphique, qui est faite en grande partie donc à partir de pierres. Mais moi, je vous laisse découvrir le document visuel, et puis éventuellement, après, on en discutera si vous voulez. Donc là, par contre, je vais être obligé de vous traduire parce que...
Brush 4. Wash 5.
En fait, OK, donc ça, c'est... Donc une expérimentation picturale de Cage en réponse à sa visite précédente au workshop Mountain Lake en 83. Et il faut dire que Cage, si vous voulez, a fait toute une série de gravures. C'est-à-dire qu'il avait un lieu, c'était à Los Angeles, pour faire des gravures, au Crown Point Press de Los Angeles. Et par contre, il faisait en Virginie des aquarelles. Et là, c'est ce que vous allez voir, c'est ces aquarelles. Et donc, c'est lié au jardin zen de Ryoanji, qui a donné lieu d'ailleurs à un cycle de pièces musicales, mais également à toute une série de dessins, de gravures et d'aquarelles. Donc voilà, là, vous voyez donc des détails d'une des aquarelles de Cage. Vous allez voir comment il traçait tout autour des pierres. Et voilà les pierres. Évidemment, il ne s'agit pas des pierres du jardin de Ryoanji. Ce ne serait quand même pas permis de les voler. Mais donc, il rassemblait des pierres de différentes tailles pour ensuite créer des dessins tout autour, enfin pour tracer tout autour, ce qui lui permettait aussi, par exemple, d'avoir des courbes, par exemple dans la notation musicale, qui correspondent à des glissandi. Tout ce que je fais, aussi bien ma musique que mes écrits, sont en liaison avec des opérations de hasard. Le I-Ching. Je pose des questions au I-Ching et j'obtiens des réponses. Les implications lorsque vous utilisez des opérations de hasard, c'est que toute réponse est bonne. Je divise les pierres en trois groupes, donc les grosses pierres, les pierres moyennes et les pierres petites. Et alors, j'utilise le I-King. Par exemple, parmi 15 pierres, je vais utiliser la pierre numéro 3. Le I-King décide si c'est une pierre large, grande ou petite.
Then I could say, which ones of the 46 do I actually use? And so on with the medium and the large. Then when I have my sheet of paper,
lorsque j'ai ma feuille de papier,
mostly it came from the nature of the paper. We divided all the paper.
On divise la feuille de papier en un certain nombre de sections.
Differences.
Et donc par rapport à ces sections, le I-King indique où placer la
pierre.
Les trois premiers jours,
first 15 stones,
on a utilisé 15 pierres.
And then on the second day,
le deuxième jour,
we reduced the number of stones to,
on a réduit le nombre de pierres
of three,
à trois, jusqu'à un maximum
and
éventuellement de cinq.
Day, we went to one.
Et même c'est arrivé jusqu'à une pierre.
Now we're back with 15 and multiples of 15.
Maintenant, on est revenu à 15 et à des multiples de 15.
Make a grid on either on
je
the
fais une grille
or on part of the paper of,
sur la feuille de papier
that is 64 by 64.
64 sur 64, ce qui est un chiffre très important dans le wiki,
to find out where the upper left-hand
corner pour définir
goes.
Où va se retrouver la trace de la pierre. La trace par rapport à la pierre.
Oh, it looks pretty good.
The first 3 days work were
les trois premiers jours,
les
outils dont on s'est servi sont des plumes
et des
brosses qui venaient d'ailes d'oiseau.
By Tom Marioni, an artist in San Francisco.
Donc c'est un artiste appelé Marioni qui a
créé ces plumes.
Il aime ces plumes
because of the well, it gave me a kind of confidence.
Parce que ça lui donne une sorte de confiance.
Because a feather isn't a normal brush.
Parce que la plume n'est pas une brosse normale dont servent les peintres. Donc ça le laisse beaucoup plus libre.
On a 26
couleurs.
So we use
il y a 7 récipients.
26. And if we want mixed colors,
et ensuite, il fait des mixages de couleurs.
We can mix them either with themselves,
on les mélange avec elles-mêmes ou avec d'autres couleurs. On peut les mélanger avec de l'aquarelle.
If I go to the chart of 9, then I can tell whether it's 90% and 10%.
Et donc on peut faire des pourcentages, par exemple, 90% de telle couleur, 10% d'une autre, etc.
I can tell which brush to use.
Le I-King détermine aussi quelle brosse utiliser.
That I ask by means of the chance operations. The only thing I can't
ask is the actual movement.
La seule chose qu'il ne peut pas décider, évidemment, c'est exactement c'est la nature du mouvement tout autour de la pierre.
What I enjoy seeing is a mark that has
been. J'aime regarder la trace que cela apporte. C'est important de dire, si vous voulez, c'est que ça ne dépend pas de son habileté réellement. C'est ça, pour lui, l'important, c'est que ces opérations de hasard lui permettent d'éviter une sorte de virtuosité forcée, comme par exemple pourrait l'être la calligraphie. Là, il se réfère à une peinture de Mark Tobey. Où tout se passe dans la partie inférieure de la feuille, alors que la partie supérieure est vide. Mark Tobey était un de ses amis et un de ses peintres de prédilection.
Nice last meal.
Yes, we're finished. But when you draw around a rock with a brush, something else happens.
Quand on
that is closer to
quand on fait des tracés tout autour de la pierre, des choses dont plein de choses arrivent qu'on ne peut pas forcément prévoir.
The slightest turn of the brush makes something that
le glissement
is like handwriting.
Le glissement de la main fait apparenter donc autour de la pierre apparente à une sorte de d'écriture.
61 13
dans les œuvres graphiques, l'axe horizontal est extrêmement important. Qui est en rapport avec la ligne d'horizon, tandis que avec la musique, les choses interviennent verticalement.
Stand number 11. It's at 61 and 3. It's brush number 8, color number 2, and 20. Stem number 3, it's at 4 and 4, it's brush number 15, color number 3, and straw.
Which stone now?
Same stone.
15?
Good.
Voilà, donc maintenant on va visionner un autre extrait de ce film de Ray Cass sur John Cage, où là vous allez avoir tout d'abord une exécution d'une pièce donc beaucoup plus ancienne qui est Amores pour trois percussions et piano préparé, et ensuite vous allez avoir une de ces conférences, une conférence si on peut dire, c'est presque plutôt une improvisation vocale qui est une des relectures qu'il a fait à partir de Finnegan's Wake de Joyce. Alors là, j'ai malheureusement pas le temps de vous décrire exactement sa technique, mais c'est aussi une technique liée à des opérations de hasard qui l'amenait à prélever dans ce texte qui est le prototype même de l'œuvre ouverte de Joyce, qui est Finnegan's Wake. Il prélevait des fragments de texte par exemple en prenant le nom de James Joyce à la verticale. C'est ce qu'il appelait les mésostiques. Un mésostique, mésos, ça veut dire milieu. Donc, il mettait au milieu d'une page les initiales du nom de Joyce. Et de chaque côté, il met des bouts de Finnegan's Wake. Donc, selon toutes sortes de procédés de hasard. Donc ça, c'est une autre de ses activités qui, donc, encore une fois, est de nature poétique, celle-là. Mais il ne décidait pas forcément, d'ailleurs, avant d'entreprendre ce travail, si ça deviendrait une pièce vocale ou si ça deviendrait une poésie visuelle ou sonore. Donc ça dépendait un peu ensuite des conséquences de ce qui lui était proposé, etc. Donc je vous propose ces deux aspects de son travail. Donc là, ça nous ramène un peu donc, dans les années 40 avec Amores, puis ensuite cette conférence qui n'en est pas une, qui est plutôt donc une improvisation vocale.
Thank you. Thank you.
La pièce que vous venez d'entendre a été composée en 1943. Et donc, ce qu'il a maintenant réalisé est beaucoup plus récent, très récent, à peu près il y a 2 ans. C'est Mew Joyce. Muse, ça vient de music, et Joyce, Joyce. Donc, il en a fait plusieurs lectures dans différents endroits.
Going at different speeds. It was whispered and sometimes vocalized.
Quelquefois ces lectures sont chuchotées, quelquefois parlées.
Do it without recordings.
Quelquefois avec des enregistrements superposés, d'autres fois sans.
Improvised.
Et là, c'est une vocalisation d'une certaine manière improvisée. C'était en général des performances qui durent très longtemps. Là, ça sera, en plus, la qualité technique n'est pas fantastique. Donc, c'est juste un petit extrait pour vous donner une idée d'une autre facette de l'œuvre extrêmement abondante de John Cage, que je n'ai fait qu'esquisser un peu vaguement, parce qu'encore une fois, c'est une œuvre prolifique qui touche plein d'activités différentes. Non pas qu'il ait voulu faire une sorte d'œuvre totale, ou bien c'est pas non plus un touche-à-tout, John Cage, mais c'est les matériaux qu'il utilisait pouvaient l'incliner, donc encore une fois, tantôt vers les arts graphiques, tantôt vers la poésie, tantôt évidemment vers la musique.